Vous le connaissez, saint Paul confesse que Jésus est l'unique médiateur efficace entre Dieu et les hommes. C'est par lui que nous obtenons la réconciliation et que nous échangeons, nous aussi, la réconciliation lorsque on nous a fait du mal ou lorsque nous avons fait du mal à quelqu'un. Or, je voudrais, la liturgie, le lectionnaire, a ajouté à l'épisode des vendeurs chassés du temple, qui donc dans saint Jean se trouve au début de son évangile, au chapitre 2, l'évangéliste a ajouté une remarque, et vaut mieux commencer par là que de finir par là, une remarque un peu aigre-douce, une remarque un peu pénible, mais que nous devons accepter, parce qu'elle vient de Jésus et elle est vraie. Voilà ce que dit Jésus après avoir chassé les vendeurs du temple. Lorsque Jésus se mit à séjourner à Jérusalem durant la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, n'avait pas confiance en eux, car il les connaissait tous. Et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet des gens, car il savait, lui, ce qu'il y a dans le cœur des gens. Oui, je propose simplement de nous arrêter en pensée quelques instants pour mesurer ce constat que fait Jésus, qui est assez pénible à entendre, mais que nous constatons tous en nous-mêmes et autour de nous, ça ne va pas très fort. Dans notre société, dans le monde tout entier, 2000 ans après que l'Évangile ait été révélé, et l'Évangile est une puissance de Dieu, l'Évangile n'est toujours pas bien reçu. Et mettons-nous du côté de Jésus, mais du côté de Marie aussi. Les deux sont immaculés et ils sont au milieu de gens pas fiables. Alors il y a les vrais méchants et puis il y a les petits méchants, comme nous pouvons l'être quelquefois. À chaque fois, ça vient heurter le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Mais ça n'empêche pas Jésus de continuer, heureusement. Et au chapitre 3, il va prendre la relève et affronter le scepticisme de Nicodème et de tout un tas d'autres personnages dans la Bible. Et ce n'est pas parce que nous sommes infidèles que Dieu deviendrait infidèle. C'est là où il y a une sorte de disparité entre Dieu et nous et qui nous avantage. Dieu est fidèle à son alliance, à sa médiation. Il ne nous abandonne pas et même nous croyons que Jésus est venu non pas pour les bien portants et pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs que nous sommes. Donc, courage, reprenons. D'autant plus qu'au premier dimanche de Carême, il y a 15 jours, nous entendions, il faut aller vous rappeler ce que demande le pape François depuis des années, hein, que de dimanche en dimanche, nous essayons de faire la suite, la progression, le déroulement de toutes les célébrations qu'il nous est donné de célébrer. Et donc on n'oublie pas le troisième dimanche, ce qu'on a entendu le premier dimanche. Et le premier dimanche, on en a parlé ici, c'était le récit de Noé et du déluge. Et rappelez-vous comment dans un premier temps, Dieu était en colère contre la violence, l'injustice, qui se répandait sur la totalité du monde. Et Dieu, dans sa colère, disait « J'en ai assez, je vais effacer tous les pécheurs de la surface de la terre », c'est-à-dire l'humanité tout entière. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, Dieu dit et ne fait pas. Sinon, on ne serait pas là pour en témoigner. Et vous rappelez comment ça peut être bon de pousser un cri de colère, oui, pour dénoncer le mal, quitte ensuite à se redresser les manches, retrousser les manches, pour se mettre au travail, trouver les causes de cette violence et les réduire jusqu'à plus rien. Et au fond, ce que Dieu fait, ce n'est pas d'effacer les pécheurs, mais c'est d'effacer les péchés. Donc prenons conscience de cette violence. Mais alors, Avec Noé, c'était un peu énigmatique. Bon, Dieu faisait grâce, sans dire pourquoi ni comment. En ce troisième dimanche, Dieu nous donne deux signes importants pour rétablir la justice et la paix. Précisément, le signe qu'il vient de faire, c'est-à-dire de redonner au temple toute sa dignité, nous allons voir quelle est cette dignité qu'il faut rendre au temple, tout en se disant que la dignité du temple de Jérusalem, aujourd'hui, elle se vit, par exemple, ici même, dans notre sanctuaire, mais il faut que notre sanctuaire soit à la hauteur de ce que Jésus demande et de ce que Jésus nous donne de vivre. Nous allons prendre conscience de tous ces enjeux. Et il y a un deuxième signe qui nous est donné, c'est la première lecture de ce dimanche. Ça peut surprendre, mais en fait, on va voir que c'est parfaitement lié. C'est le signe du décalogue, le signe de la loi que Dieu donne à son peuple. Vous voyez, si nous vivons dans la défiance, si nous vivons dans le soupçon, c'est ce que Jésus reproche à ses contemporains, et nous en faisons partie, eh bien, Jésus nous propose deux remèdes. Donc, commençons par celui qui est immédiatement en lien avec notre avertissement. C'est le signe du temple, qui va devenir, vous le savez, le signe de l'Église, en passant précisément par le corps du Christ ressuscité qui fait la médiation sur le lieu où nous pouvons nous rassembler. En quoi consiste le signe du temple? En quoi consiste une église? C'est un lieu où il y a principalement deux grandes activités qui doivent être conjuguées, c'est-à-dire rendre un culte en esprit, en vérité, un culte sincère à Dieu, en d'autres termes, honorer Dieu. Mais dans l'Évangile, c'est indissociable de la paix ou de l'honneur qui doit être rendu en même temps à son prochain. Il n'y a pas de l'Évangile de véritable lien authentique avec Dieu s'il n'y a pas un lien authentique avec le prochain. On pourrait appeler ça une dimension verticale. On vient rencontrer Dieu qui vient à nous. Nous, catholiques, nous croyons par la grâce de Dieu à la présence réelle de Dieu qui vient à nous, notamment dans le Saint-Sacrement. Et il nous est demandé de répondre à cette présence par notre propre disponibilité. Mais cette disponibilité, devant Dieu qu'on ne voit pas, doit se manifester par la bonne relation pacifiée avec notre prochain, lui qu'on voit, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Si on vient en famille ou entre amis à une célébration eucharistique, il y a des chances que cette paix soit assez facile à manifester. Si une paroisse est ultra vivante ou un sanctuaire comme celui de Notre-Dame des Victoires, on peut penser que, a priori, nous nous retrouvons tous ici dans un sentiment de paix, de bienveillance et de service. Mais il y a toujours à progresser dans ce domaine-là. Et c'est peut-être à ce moment-là que nous rejoignons le thème de la loi. Car la loi de Dieu a été donnée sur la montagne sainte après Pâques, c'est la fête de la Pentecôte, par Moïse au peuple d'Israël. Et si vous vous souvenez, le nombre des commandements est très précis, celui de 613. Il y a 613 commandements dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Si on fait le détail, il y en a 365 qui sont négatifs, ce qu'il ne faut pas faire, et 248 positifs, ce qu'il faut faire. Pour le retenir, ce n'est pas difficile. 365, c'est le nombre de jours dans l'année, sauf cette année, puisqu'elle est bissextile. Et 248, il paraît que c'était le nombre d'os que l'on comptait il y a 2000 ans dans le corps humain. Je n'ai pas vérifié. Oui. Qui est des jours... Que ça... Voilà. Oui, 248 et 365. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On en connaît quelques-uns. Vous voyez. Mais justement, l'idée, c'est de les résumer. Oui, voilà un exercice intelligent. Et comment résumer la loi? Alors, on peut résumer par le décalogue, il y a 10 paroles, mais on peut aller encore plus bas. Vous savez comment la loi a été résumée par Jésus, et déjà ça avait été fait dans la tradition juive avant lui, aimer Dieu et aimer son prochain, et même l'unique commandement que l'on peut encore chercher, mais de toute façon il n'y en a qu'un d'important, puisque Jésus dit bien, le premier commandement c'est d'aimer Dieu, le second lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc en fait les deux commandements ne font qu'un. Et on voit bien que Dieu est unique et que nous sommes tous uniques devant lui et même que nous sommes ensemble, voyez-vous, à vivre l'unité devant lui. Nous reviendrons sur cette idée de savoir résumer la loi. Pourquoi est-ce si important alors que nous sommes écrasés, voyez, par des milliers et des milliers de lois et de règlements dans tous les domaines jusqu'à nous étouffer? Il y a peut-être une saine réaction que les chrétiens pourraient proposer, y compris aux instances qui gouvernent notre société. Mais revenons à l'idée du temple. Voyez, voilà. Comment se fait-il que le culte ou la prière soit trop souvent un lieu de division plutôt qu'un lieu de communion? C'est certainement parce que on ne reçoit pas, on n'exploite pas cette révélation de Dieu, qui est très particulière, effectivement. C'est que honorer Dieu et honorer son prochain vont de pair. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors peut-être faut-il revenir aux sources précisément du signe du temple. Comment est arrivé le signe du temple de Jérusalem et que devient-il avec Jésus? Ça nous fait faire un petit parcours d'histoire sainte. Oui. Alors, ce sont des grandes étapes, nous les connaissons, on va, si vous voulez, les mettre un peu en ordre. Au départ, et de manière curieuse, il n'y a pas de temple. Je veux dire que dans le monde de la Bible, je parle de l'Ancien Testament et dans les plus anciennes civilisations, dans le croissant fertile, hein, on a appris ça en primaire, le croissant fertile, donc l'Égypte, Israël, la Syrie, la Mésopotamie, etc. Voilà. On a des récits païens de création du monde, un peu comme dans la Bible. Et tous ces récits, qui sont des récits païens, c'est pas biblique, hein, tous ces récits se terminent par la construction, après que le monde ait été mis en place, en ordre, le haut, le bas, les arbres, comme dans la Genèse, si vous voulez, il y a toujours un lieu saint. Il y a toujours un temple qui est établi pour là où les divinités qui sont censées avoir créé le cosmos. Alors, la tradition d'Israël va s'inspirer, au moins matériellement, de toutes ces traditions, parce qu'il faut bien parler de manière humaine. Mais, et c'est ça qui est intéressant, la Bible ne s'aligne pas sur les traditions païennes. En particulier sur ce point très précis, à la fin du premier récit de la création de la Genèse, donc le chapitre 1, je vous rappelle que nous le lirons pendant la vigile pascale, dans 3 semaines, ça ne se termine pas par la construction d'un temple. Qu'est-ce qui remplace le temple le dernier jour de la création où Dieu se repose, c'est-à-dire le temps sacré, le temps du sabbat, qui est donné à Israël comme premier signe de la rencontre possible à la fois entre Dieu et son peuple et dans les membres du peuple les uns devant les autres. Oui, ce n'est pas d'abord un espace qui est identifié comme étant un lieu de rencontre, c'est d'abord un temps. Et c'est très intéressant comme c'est très subtil parce que l'espace, il est facile de le contrôler, de l'identifier, il y a tant de mètres entre les deux transepts et dans la nef plus le cœur, mais le temps c'est beaucoup plus difficile à identifier. Et si les pouvoirs civils ou religieux peuvent mettre la main sur un espace sacré, il est très difficile de mettre la main sur le temps. Le temps est un moyen de vivre, c'est un identificateur de notre existence humaine. Oui, nous vivons dans le temps, il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir, mais ça se vit de manière très personnelle. Et si on n'avait pas d'espace, imaginons même qu'on nous mette en prison pour X raisons, et dans une prison, on aurait encore le temps. Et le temps ne peut pas nous être enlevé. C'est un don que Dieu nous accorde. Et saint Paul parle, par exemple, de la sanctification du temps, avec deux principales vertus. Et comme le carême est souvent l'occasion de revisiter notre comportement, ces deux vertus sont les suivantes, la mémoire et l'espérance. Que faisons-nous de notre mémoire? Nous sommes invités par Dieu à purifier notre mémoire, à ne pas trop garder tous les sentiments de rancune, les sentiments de blessure, les mauvais sentiments que nous avons pu vivre dans notre histoire et qui sont souvent comme des boulets que nous continuons de traîner. Pour purifier cette mémoire, la vertu principale, c'est la miséricorde, c'est le pardon. Bon, ce qui a été fait est fait, c'était très mal, c'était très laid. Bon, maintenant, c'est fini et on tourne la page. On voit que Dieu ne cesse de tourner les pages. Imaginez que Dieu garde, comme dit ma mère, dans ses tablettes tout ce qu'on a fait de tordu. On ne pourrait pas s'en sortir. Oui, ce serait arrêter l'histoire de la sanctification. Il faut savoir prendre du temps, il faut savoir purifier le temps pour entrer dans la libération que Dieu nous accorde. Ça, c'est en arrière. En amont, c'est la vertu de l'espérance. Est-ce que nous croyons que quelque chose de beau, de neuf, de vivant, de lumineux est rendu possible, non pas par notre propre volonté ou notre propre vertu, mais par une grâce de Dieu lui-même? Et l'on voit, lorsque Dieu est en colère et qu'il parle d'effacer les pécheurs, il ne le fait pas. Que fait-il au contraire? Il rend un cœur nouveau à son peuple pécheur, à son peuple blessé, pour le remettre debout et pour qu'il avance. Pour reprendre une formule du pape François, ne nous laissons pas voler l'espérance. Un perfectionnement est toujours possible, aussi bien pour moi que pour les autres. Vous vous rappelez que lorsque Jésus nous demande de tendre l'autre joue quand on a été giflé sur la première, ce n'est pas pour attendre une deuxième gifle, c'est pour attendre, espérer une réparation. On espère la conversion du méchant et qu'il répare le mal qu'il a fait. Et Dieu se charge de cela. Et c'est ce que nous vivons pendant le mystère pascal. Jésus a été déclaré coupable et on l'a assassiné. Qu'est-ce que fait Dieu? Il dit il est innocent et il le ressuscite. Voilà le comportement de Dieu, mes amis, et c'est ce comportement qu'il faut imiter. Et ça suppose de prendre en grande considération le temps lui-même. Donc une nouvelle expérience du temps, c'était une maquette. Rappelez-vous que l'Arche de Noé était une maquette du Temple. Autre maquette, dimanche dernier, le sacrifice d'Abraham. Dieu semble lui demander d'immoler son fils. En réalité, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, qu'il se convertisse et qu'il vive. Et l'amour d'Abraham pour Isaac et l'amour d'Isaac pour Abraham fait que les deux restent en vie, restent ensemble. Oui. Le culte ne demande pas de la violence. La violence ne plaît jamais à Dieu. Certains croient dans des religions bizarres qu'en étant méchant, violent, avec son prochain, fussent-ils des grands bandits, on honorerait Dieu. Non, Dieu dit dans la loi, tu ne tueras pas. Ça ne fait jamais plaisir à Dieu que l'on exerce de la violence envers qui que ce soit. C'est au contraire la pacification qui est à l'ordre du jour dans le commandement de Dieu. Et les églises doivent être un lieu où on apprend la paix, où on apprend à faire la paix. Dans votre mémoire, dans notre mémoire, tâchons de nous souvenir toutes les fois où on parle de paix, ne serait-ce que pendant une messe. Imaginez tout simplement quand un évêque préside une messe, la première salutation. Alors pourquoi c'est réservé aux évêques, j'en sais rien, enfin bon, mais c'est comme ça. La paix soit avec vous. Vous voyez, c'est la première parole, et on se rappelle que c'est la première parole du Christ ressuscité. Et oui, parce que retrouver le Christ vivant, ça faisait peur. Ben, notamment à tous ceux qui l'avaient maltraité. Le Christ revient pour faire quoi? Imaginez le pauvre apôtre Pierre qui a renié Jésus. Bon, il a renié Jésus, il en pleure, il en est malade. Jésus est tué. Bon, ben, il a été minable, mais c'est fini. C'est passé. Eh ben, pas du tout. Jésus revient. Mais Jésus revient dans un premier temps. Aïe, qu'est-ce qui va me passer? Si on était entre personnes, si c'était moi qui avais été maltraité, évidemment, je serais revenu avec des pensées épouvantables. Oui. Mais Jésus, non, leur dit, et c'est une surprise, la paix soit avec vous. Et apprenez maintenant à faire la paix. Ah bon, ben alors, ce qu'on a fait avant, c'est fini, on repart. C'est une création nouvelle. Et la dernière parole à la messe, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Mais je demande, y compris pour moi, est-ce que je viens célébrer la messe pour apprendre à faire la paix ou non? Une église, c'est un lieu où on apprend à faire la paix. Qu'on vienne prier dans une église, ou qu'on vienne même, quand elle est belle ou est-elle est réputée, visiter une église, le but de tout ce qui décore une église, c'est de fabriquer un disciple de la paix, un faiseur de paix. Moi qui suis et qui prépare la visite et la célébration dans la cathédrale à Notre-Dame, nous voudrions évidemment que les visiteurs qui passent, avec des sentiments de curiosité ou d'esthétique, puissent repartir en disant « Le trésor de la vie de Dieu, du Dieu des chrétiens, moi qui ne suis pas forcément chrétien, j'apprends que c'est la paix. Et peut-être ai-je envie maintenant de devenir un artisan de paix. Et puis tous les pèlerins qui viendront, nous aussi on viendra de Notre-Dame des Victoires, on ira à Notre-Dame pour continuer à progresser sur le chemin de l'apprentissage de la paix. » Encore une maquette du temple, l'arche d'alliance. Vous voyez, lorsque Dieu donne sa loi au Sinaï, Moïse va fabriquer un sanctuaire portatif, qui va accompagner le peuple pendant la traversée du désert pendant 40 ans et qui après va s'établir en terre promise et qui donnera le temple de Jérusalem construit par Salomon. Mais quel est le sentiment que Dieu demande, qu'Israël exprime pour dire qu'il a bien compris ce que Dieu voulait, c'est d'être d'un seul cœur. Et dans une assemblée dominicale ou en semaine, ce qu'on vient apprendre, c'est à être présent devant Dieu qui vient à nous, non pas simplement de manière individuelle, les uns plus ou moins à côté des autres, mais qu'ensemble, nous fassions un seul cœur. Le fruit de l'Eucharistie, dans la grande théologie catholique, on pourrait citer le théologien saint Thomas d'Aquin, qui est, je m'appelle, le docteur commun de tous les catholiques latins, au moins que nous sommes, le fruit de l'Eucharistie, le but de la célébration de l'Eucharistie, c'est de vivre dans l'unité du corps dont le Christ est la tête. Et il faut se demander à la sortie d'une église, à la sortie de la messe, si on est conscient que Dieu nous donne de partager cette grâce d'unité. Et c'est une grâce qui n'est pas donnée comme ça, comme on répandrait des choses vaines. C'est une grâce précieuse, c'est une grâce qui coûte cher. Car comment Jésus a fait la paix? Par le sang de sa croix. Et c'est bien le sacrifice du Christ qu'on célèbre dans l'Eucharistie. Un peu comme dans le sacrement de la réconciliation, quelquefois on y va pour des choses qui ne sont pas forcément très très graves, mais de toute façon, et pensez bien à la formule d'absolution que dit le prêtre, par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et quand on reçoit l'absolution, on se dit, attention, ce n'est pas simplement un coup d'éponge pour effacer une tâche, c'est toute la puissance de l'amour, du don et du sacrifice du Christ qui sont actualisés pour me transformer, pour me rendre conforme au projet de Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'était déjà présent sur la montagne du Sinaï, où deux fois, on nous dit que le peuple d'une seule voix, d'un seul cœur, a dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons ». C'est un peu comme si on signait un chèque en blanc. Ça peut être dangereux avec les hommes. Avec Dieu, ce n'est pas dangereux. Au contraire, il s'agit de tout donner parce qu'on a déjà tout reçu. Voilà. Mais demandons-nous encore une fois, quand nous venons célébrer la messe, qu'espérons-nous? Que croyons-nous que Dieu nous donne? Alors, il ne s'agit pas de faire marcher notre imagination. Hein, il faut écouter ce que Dieu dit. Et donc, après Noé, après Abraham, après Moïse, voyez-vous, c'est David, vous voyez, qui va organiser la construction du temple. Ah, mais lui-même n'aura pas le droit de construire le temple. Ah, il pensait avoir un beau rôle en disant, ça y est, Seigneur, regarde comme je suis bon et généreux, je vais te bâtir un temple. Le prophète lui dit, oui, c'est bien, d'ailleurs, tu as déjà fait un palais pour toi. C'est bien de penser à Dieu après que tu aies pensé à toi. Mais tu as d'abord pensé à toi. Ah oui, dit David. Enfin, voilà, je me rattrape. Maintenant, je fais quelque chose de bien pour Dieu. Et Dieu dit, non, c'est pas toi qui vas le faire. Pourquoi, demande David, je suis plein de bonne volonté? Ben, parce que tu as versé trop de sang. Voyez-vous, je vous disais tout à l'heure qu'on tourne les pages. Oui, mais il y a des dégâts que nous faisons par notre violence, qui sont difficiles à effacer. Et David a été un homme de guerre. Et la guerre, pour Dieu, c'est le fléau. La guerre, dans la Bible, c'est l'instrument du diable. C'est toujours, comme on dit maintenant, perdant-perdant. C'est toujours un drame pour tout le monde, pour le vaincu, mais pour le vainqueur aussi. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Alors, David recevra la mission de tout préparer, toutes les pierres, tous les matériaux, tous les artisans, les ouvriers, etc. Mais lui, voilà, lui n'y mettra pas la main. Voyez-vous, nous retrouvons toujours cette injonction, comment apprendre à devenir un fils de la paix. Alors, c'est Salomon, appelé le pacifique, qui va bâtir le temple. Mais le temple, voyez-vous, va devenir un piège. Ben oui, ça va être l'occasion pour différentes factions de devenir plus ou moins propriétaires de ce lieu, de cet espace. Or, cet espace, c'est un espace de Dieu, c'est un espace pour Dieu. Il faut éviter de mettre la main dessus. Une expression est assez facile à retenir pour ne pas tomber dans l'illusion. Dieu demande qu'on le serve, donc nous venons pour nous mettre au service de Dieu et non pas, quand on renverse la formule, et non pas pour se servir de lui. Voilà. On n'achète pas Dieu. On ne met pas la main sur Dieu. On se met au service de Dieu qui est l'alpha et l'oméga de notre vie et de l'histoire. Et là, on voit que Jésus a voulu redonner précisément au temple toute sa double dignité, honorer Dieu et honorer l'humanité, en venant purifier le côté commercial du temple. On n'achète pas Dieu. Oui. C'est très intéressant, bien sûr, pour la prière. Oui. La prière n'informe pas tellement Dieu de ce dont nous avons besoin. Dieu sait bien ce dont nous avons besoin. Mais il faut que nous prenions conscience, nous, de ce besoin et de la volonté de Dieu de répondre à ce besoin, car il aime la vie. Vous voyez quelle purification du temple et de nos cœurs il reste toujours à faire. Et ainsi Jésus dit, ben voilà, après ma résurrection, je serai le nouveau temple. Oui, nous avons un temple qui associe à la fois quelque chose de sensible, notamment les sacrements, le pardon, la célébration de l'Eucharistie avec l'hostie, et puis l'eau du baptême, et puis l'huile de l'onction, de la confirmation, l'huile des malades, le consentement échangé pour le mariage, la pénitence, la confession des péchés pour la réconciliation. Nous avons du sensible et nous avons de l'invisible, comme le temps. Le temps, on ne le voit pas, mais le temps et l'espace se conjuguent ainsi en Jésus-Christ, qui est célébré dans les églises pour vivre cet entraînement, ce perfectionnement à devenir artisan de paix à la suite même du Christ. Alors, je pense à une formule que l'on invoque assez souvent pour remettre un peu de dignité et de beauté, d'ordre dans la société. On dit il faut remettre l'Église au milieu du village. Pourquoi pas ? Mais quelle Église ? Et une Église, pourquoi faire ? Et une Église, certainement, dont les participants doivent apprendre à rendre compte du plan de Dieu. Si c'est uniquement pour faire sa petite prière, c'est peut-être pas mauvais, mais c'est pas l'ambition de Dieu lui-même. Ce que Dieu ambitionne, c'est de nous transformer en artisans de paix au service de Dieu et par là même au service de notre prochain. Soyons généreux pour répondre à cet appel divin. Alors, quelques minutes maintenant, sans être trop long, sur le deuxième signe, la loi. Oui. Pourquoi Dieu donne-t-il une loi ? Et je disais, nous sommes dans notre société écrasés de lois. Alors, pourquoi Dieu donne une loi ? D'abord pour nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas suffisant non plus. C'est comme la prière. Ce n'est pas simplement individuel. Il faut recevoir la grâce de la communion. Alors, la loi, elle est donnée pour rester en communion d'abord avec Dieu. Car Dieu est celui qui donne la loi. Oui, la grande faute, je crois, le grand danger, c'est de séparer la loi de Dieu qui donne la loi. Et si Dieu se donne la peine, dans une scénographie incroyable, que ce soit à la montagne du Sinaï dans l'Exode ou à la Pentecôte pour la loi nouvelle, si Dieu veut intervenir lui-même, c'est qu'il veut, par la loi, créer un lien entre nous et lui, entre lui et nous. Ça s'appelle l'alliance. Et quand on observe des commandements, ce n'est pas simplement pour obéir. Il y a une autre disposition qu'il faut chercher par rapport à Dieu. Alors Dieu est certainement content qu'on lui obéisse, mais ça ne lui suffit pas. Quelle est l'étape supplémentaire ? Ben, il faut lui plaire. Vous voyez ? C'est un peu comme un enfant, on lui apprend à faire ce que disent ses parents, et l'enfant apprend, mais quelquefois très tard, qu'en faisant ce que son papa ou sa maman lui demande, non seulement il va rendre un service en mettant le couvert ou en rangeant sa chambre, que sais-je, mais il va surtout faire plaisir à ses parents. Les parents sont enchantés que les enfants correspondent à ce qui leur est cher. Et c'est ça que Dieu attend. Vous relirez, si vous voulez, ce soir, le tout premier verset du premier psaume. Vous ouvrez le psautier, premier verset du premier psaume. « Bienheureux ceux qui prennent du plaisir à la loi du Seigneur. » Ça, c'est le but. Et quand on fait attention à obéir à Dieu, obéir ne suffit pas, il faut y trouver du plaisir. On pourrait prendre le mot de paix, mais le mot qu'il y a dans le psaume, c'est le mot de plaisir, c'est-à-dire une sorte de correspondance vraiment du fond du cœur. Et c'est intéressant parce que je crois qu'on peut estimer la bonté d'une loi à sa disponibilité à produire ce fameux plaisir. N'importe quelle loi. Je suis cycliste. je m'arrête au feu rouge. C'est rare. Et je m'arrête au feu rouge, pourquoi? Alors, peut-être pour ne... parce que c'est impéré, c'est la loi. Deux, parce que si je franchis le feu rouge et qu'il y a le gendarme, je vais payer 90 euros, et je ne les ai pas. Donc, j'y tiens pas. Mais en vérité, qu'est-ce qui fait... quel est le but de la loi? C'est que quand je m'arrête au feu rouge, ben, les piétons passent. Et dans notre temps de grande violence, on est tellement peu à s'arrêter au feu rouge que maintenant les gens disent merci. Et ça me ravit, évidemment. Ah, merci monsieur, mais j'en prie madame. Hein, voilà, on peut passer tranquille. Vous voyez, il y a un bonheur. Vous voyez, on a des impôts. C'est la loi fiscale. Mais si je me dis que mes impôts servent à construire des écoles, des hôpitaux, à payer ceux qui mettent de l'ordre et qui encouragent l'éducation et les soins, je suis ravi. Oui, évidemment, si ça part dans les poches des gens, je ne suis pas content. Mais si ça se passe bien, vous voyez, c'est tout à fait louable. Il y a un vrai plaisir à pouvoir observer cette loi. Par contre, il y a des lois, on voit bien que... on ne va pas pouvoir les observer avec bonheur. Des lois dures, voilà d'où ce pataquès avec les lois sur l'immigration, vous voyez, on sentait bien que ça ne collait pas. Vous voyez, avoir plaisir à mettre l'avortement dans la Constitution, je ne vois pas où peut être le plaisir d'avorter. Vous voyez, ça peut être un drame, oui, toujours, mais vous voyez, il n'y a pas de plaisir. Et une loi pour la favoriser, c'est assez incompréhensible. Alors, il faut rentrer justement pour savourer les lois dans la pédagogie de Dieu lui-même, et notamment avec cette idée de réduire les lois, alors qu'aujourd'hui, elles sont innombrables. Demandez aux agriculteurs, n'en peuvent plus. Quelle paperasse! Et pour nos impôts, c'est pareil. Et quel est l'intérêt de diminuer la loi? Eh bien, c'est que ça fait de la place pour notre responsabilité. Et Dieu, en donnant sa loi, nous prend pour des gens adultes, nous prend pour des gens dignes. Il est bon de correspondre et non pas simplement de se soumettre. Nous ne sommes pas, chrétiens, la religion de la soumission. Nous sommes la religion de la responsabilité. Dieu nous rend responsables des lois. Et c'est à nous, en s'aidant les uns les autres, à les interpréter, à discerner comment, dans quelles circonstances, on va pouvoir les mettre vraiment en œuvre. Et voyez que là, à ce moment-là, le temps de Dieu et le temps des hommes se rejoignent. On n'est pas surplombé par Dieu, on est en alliance avec Dieu. Et tout le carême consiste précisément à entrer dans cette alliance. Alors voyez-vous, je termine par la même formule que j'avais utilisée tout à l'heure, remettre l'Église au centre du village. Très bien, mais encore une fois, quelle Église? Pourquoi faire? Je suis certain que si nous prenons mieux conscience de ce à quoi Dieu nous invite en venant célébrer notamment rien que la messe dominicale, nous serons capables de bien témoigner de l'Évangile et, s'il plaît à Dieu, de remplir les églises pour que le monde tout entier apprenne à faire la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Je vous souhaite un bon dimanche, troisième dimanche de carême. Dimanche prochain, ça sera un texte difficile, puisqu'il s'agira de comparer Jésus au serpent de bronze élevé par Moïse. On va se mettre au travail, hein. Tâchez de préparer un peu aussi, hein, vous allez voir, on fait ensemble. Voilà, merci.